Nous rejoignons maintenant Amélie Turandeau, qui est directrice générale de l'Association québécoise de la déficience intellectuelle. Bonjour, Madame Turandeau.
Oui, bonjour, Madame Pellerin.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, merci. On parle avec vous pour un sujet très précis, Madame Turandeau, qui est l'allocation offerte aux familles demanderesses d'asile qui a été coupée par le gouvernement du Québec il y a quelques semaines de ça, c'est-à-dire que les personnes qui étaient demandeuses d'asile avec un enfant en situation de handicap avaient droit à une petite allocation mensuelle pour aider à répondre aux besoins d'un enfant qui était en situation de handicap et... On a su dans les dernières semaines que l'allocation a été coupée aux personnes demanderesses d'asile.
Oui, tout à fait. C'est une situation à laquelle la SQDI s'est beaucoup impliquée avec d'autres organismes communautaires, notamment là au sein d'une coalition, parce que c'est vraiment une décision qui dépasse l'entendement. Il y a énormément de répercussions sur ces familles-là, sur le terrain. Donc, concrètement, là, c'est à partir du 1er mars 2026 que à peu près 260 familles qui ont des enfants en besoin particulier, des familles en demande d'asile, elles ont été informées juste avant les fêtes qu'elles ne recevront plus de suppléments destinés à couvrir les frais qui sont liés au handicap de leur enfant. Ça touche environ 300 enfants, mais je dirais au moins 300 enfants parce que depuis le 15 avril 2025, donc à peu près depuis une année de ça, le ministère de la Santé et des Services sociaux ne prend plus aucune nouvelle demande. Donc, ça touche beaucoup plus de familles là, que les 263 familles concernées.
Et si vous êtes, si vous faites partie du dossier, j'imagine que quand on parle d'enfants en situation de handicap, on parle d'handicap au sens large. J'ai aussi des enfants qui ont des déficiences intellectuelles, qui ont des TDAH, des troubles du spectre de l'autisme et tout ça. Donc, on parle vraiment d'enfants là, autres que la déficience physique.
Oui, c'est vraiment tout handicap confondu. Donc nous, en fait, on rappelle par cette action-là aussi, on est super sensible là, à la réalité des familles là qui voient ces versements-là coupés à partir de ce mois-ci parce que il n'y a pas de solution de rechange. En fait, les dépenses de ces familles-là, c'est pas accessoire, là, c'est vraiment des conditions, les enfants ont vraiment des conditions de base, puis ça permettait là, vraiment aux enfants de pouvoir se développer, de participer à la vie collective, d'être inclus aussi dans la société parce que ces enfants-là aussi, c'est les citoyens de demain. Là. Oui. Donc, pour nous, les raisons qu'on nous a évoquées ne tiennent pas la route. Là. Au niveau de la petite économie d'échelle qui va se faire, oui. Ça va coûter beaucoup plus cher de soutenir ces enfants-là devenus adultes s'ils n'ont pas le soutien dès la petite enfance. Donc, oui, le milieu du handicap est impliqué. Autant le milieu qui défend les droits des personnes là en demande d'asile. Donc, vraiment, on s'est unis, ces deux milieux-là, oui. Justement, pour dénoncer la situation parce qu'il n'y a pas de solution de rechange. T'sais, c'est quand on a besoin de soutien en ergothérapie, en orthophonie. Parfois, c'est pour avoir couvrir des médicaments spécialisés, des orthèses, des fauteuils roulants, etc. Il y a des parents qui remettent en question le fait d'envoyer leur enfant à l'école. C'est vraiment très, très préoccupant parce qu'encore là, il n'y a pas d'autre solution pour ces familles-là. Et même le milieu communautaire n'est pas en mesure de pouvoir offrir ces solutions-là. Oui. Donc, on se retrouve devant des familles qui sont déjà, pour la plupart, dans une très, très grande précarité financière à la base. Là. Oui. Quand on est des familles en demande d'asile, on fait face souvent à des situations de plus grande vulnérabilité. Et là, ça ajoute cette coupe-là. Donc, oui, on la dénonce fortement.
Et je pense qu'il faut expliquer ce que sont des demandeurs d'asile, parce que peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît. Donc, les personnes demandeuses d'asile, c'est des personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons de sécurité. Donc, que ce soit parce que la politique du pays est mise en danger ou que ce soit pour des raisons de violence ou des raisons de discrimination face au handicap ou de discrimination pour d'autres raisons. Donc, ces personnes-là doivent quitter pour leur propre sécurité et arrivent ici et au niveau du droit international, on doit les recevoir ici et on se doit de protéger ces familles-là. Donc, vous le dites bien, là, c'est des familles qui arrivent avec très peu de choses parce qu'ils ont souvent quitté leur domicile à la va-vite là, et arrivent ici, ne peuvent pas travailler étant donné leur statut de demandeur d'asile, donc ils sont en attente d'un statut régulier. Donc, on a des difficultés donc, à travailler, à subvenir aux besoins de base. Et là, par-dessus ça, on a un enfant qui est en situation de handicap qui demande des soins particuliers ou des équipements particuliers. Et on parle d'un montant d'argent qui était presque dérisoire, là, qui donnait quand même assez peu. Je pense que c'était quelque chose là, comme 200$ par mois.
Oui, c'est environ 400$ par mois par enfant. Évidemment, je pense que tout le monde va être d'accord avec nous qu'un enfant, ça demeure un enfant.
Oui.
Puis un enfant devrait bénéficier des mêmes droits de protection que tous les autres enfants, des mêmes droits liés à leur développement et à leur dignité. Et aucune famille a choisi de vivre ces situations-là. Puis ce qui est quand même surprenant, c'est que c'est au Québec, on s'est doté d'un cadre juridique clair, notamment par la Charte des droits et libertés de la personne. Il y a aussi la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, retirer ce supplément-là à des enfants en situation de handicap, pour nous, c'est de creuser encore plus les inégalités
puis
pénaliser vraiment des enfants qui sont déjà vulnérables. Aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de coupes, de compressions dans les services offerts aux personnes en situation de handicap. Le 30 janvier passé, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dit dans sa déclaration qu'il demande à chaque fois qu'il y a des coupes ou des compressions dans notre milieu, c'est qu'il y a une analyse rigoureuse qui est faite pour justifier cette coupe-là. Et là, évidemment, ce qu'on dénonce, c'est qu'il n'y a eu aucune analyse là réellement des impacts. Ce qu'on nous a répondu, c'est que en fait, c'est comme une erreur administrative, qu'on n'aurait jamais dû payer ces montants-là.
Ah bon?
Ça fait depuis les années 90 là, que le ministère de la Santé et des Services sociaux finance ce soutien-là aux familles et que là, on est seulement en train de corriger une erreur administrative. Mais pour nous, c'est vraiment signe là, qu'on délaisse complètement des familles qu'on a choisi d'accueillir, qui sont déjà dans une grande précarité. Donc, c'est vraiment, tu sais, un signe d'abandon. Là. Donc, c'est très difficile d'envisager de bâtir une société inclusive quand on délaisse, dans le fond, ces familles-là, parce que évidemment, on veut que tous les enfants puissent être inclus dans la société et puis bénéficier des mêmes droits que les autres enfants. Là. Donc, c'est pour ça vraiment que nous, on s'acharne à défendre ce dossier-là, parce que c'est toute coupe dans le milieu du handicap sans analyse, c'est vraiment... ça a vraiment des répercussions dans la vie là, des personnes concernées.
Et principales sources de revenus pour les demandeurs d'asile, c'est quelles? C'est l'aide de dernier recours, là, très souvent.
Oui, tout à fait. Puis ils n'ont pas accès non plus, je tiens à le rappeler, là, aux mêmes allocations que les résidents permanents, puis les citoyens canadiens. Donc, c'est vraiment de l'aide de dernier recours. Il y a un programme fédéral là, pour subvenir aux frais de base là, au niveau de la santé, mais ça ne couvre pas ces besoins-là. Si on parlait d'histoires vraiment dramatiques, par exemple, il y a des familles qui sont obligées d'aller travailler quand même, des mamans qui vont travailler malgré que leur enfant est sur le bloc opératoire, ils ne peuvent pas rester à leur côté parce qu'ils n'ont pas ce supplément-là pour être aux côtés de leur enfant. Les banques alimentaires, souvent, ne donnent pas les aliments qui sont appropriés pour des diètes particulières. C'est plein d'exemples qui font en sorte que cette allocation-là, c'est pas du luxe, c'est vraiment, puis je le répète, c'est pour permettre de couvrir au minimum des besoins là pour permettre aux enfants de se développer. Donc, je ne sais pas comment on a pu imaginer que d'avoir un fauteuil roulant pour une personne à mobilité réduite, c'était comme accessoire.
Oui, du gros luxe, ça. Vous avez dit aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué, que c'était une erreur, en fait, d'avoir donné cette allocation-là, alors qu'on parle d'une allocation de base pour aider des enfants qui sont en situation de handicap.
Oui,
Donc, c'est quand même particulier de répondre oui, mais ça a toujours été une erreur. On a fait l'erreur pendant 30 ans. T'sais.
Ouais, on corrige une erreur par une autre erreur qui est probablement encore plus grave, là. Donc,
qui est clairement plus grave.
Oui, puisque ce qui a été mentionné et rapporté par Le Devoir, là, qui a mis cette histoire-là au grand jour, là, juste avant les fêtes, c'est que pour le gouvernement, l'argument qu'on a donné à la journaliste, c'est que c'était pour une question d'équité, puis une question de gestion rigoureuse. Mais je pense que c'est très mal comprendre le concept d'équité déjà, de penser que de faire une coupe pour que tout le monde puisse bénéficier des mêmes soutiens quand il y en a qui ont des besoins particuliers. En tout cas, je pense qu'il faudrait rappeler au gouvernement c'est quoi le concept d'équité.
Oui, bien, c'est ce que...
C'est certainement pas ça.
C'est ce que j'allais dire. Il faudrait que le gouvernement m'explique ce qu'est l'équité parce que de la façon dont je le comprends, puis vous me direz que je suis pas une spécialiste, mais la façon dont je le comprends, l'équité, c'est de donner à tous les outils dont ils ont besoin pour être finalement capable de participer à la vie sociale. Donc, un fauteuil roulant, de la nourriture qui est adaptée pour ces gens-là, des orteils, c'est de l'équité, finalement.
Ben oui, je pense que la plupart des gens comprennent c'est quoi, mais des fois, il faut le rappeler.
Oui, ben écoutez, encore une fois, il faudrait peut-être que le gouvernement m'explique le concept d'équité. On regarde peut-être pas dans le même dictionnaire, mais effectivement, il y a quelque chose ici qui est incompréhensible. Là. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'on essaie encore une fois de faire des économies de bout de chandelle.
Même quand on pense à... Je ne voulais pas vous interrompre, désolée, mais exactement. Même quand on pense à l'argument de la gestion rigoureuse, elle est où la gestion rigoureuse là-dedans? C'est sûr que ça va coûter encore plus cher à l'État éventuellement. Là,
oui, clairement.
On y va en termes de discours comptable, là, tu sais, qui parce qu'on va toujours sur ces arguments-là, mais en même temps, c'est complètement irrationnel. Là. C'est irrationnel, mais c'est irrationnel aussi d'être devant autant de souffrances humaines. Oui. Le milieu communautaire, ceux qui se sont prononcés, dénoncent vraiment vivement parce que c'est vraiment pas facile pour ces familles-là, puis c'est pas facile aussi pour les travailleurs qui côtoient ces familles-là d'être devant autant de détresse, puis de voir que le Québec met en place des politiques d'austérité dans un contexte beaucoup plus à saveur électorale que pour réellement protéger les personnes concernées. C'est vraiment très malheureux. Puis, il y a la Commission des droits de la personne qui a aussi profité de l'occasion pour dénoncer le fait que il y a des compressions massives dans le secteur du handicap et qu'il y a un grand manquement en termes d'analyse là, lors des prises de décision, en fait.
Ce que je comprends, en fait, c'est qu'on s'attaque encore une fois aux personnes les plus vulnérables qui ont le moins moyen de se défendre et qui ont le moins moyen, vous l'avez dit, d'avoir une solution de rechange. Donc, merci d'avoir été avec nous et merci de votre travail au niveau de ce dossier-là, qui est un dossier extrêmement complexe, et de défendre, comme je l'ai dit, des personnes qui sont très, très vulnérables. Vous êtes donc la directrice générale de l'Association de la déficience intellectuelle du Québec. Donc, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci, Madame Pellerin. Bonne journée à vous aussi.